Bien, on a accueilli François Pesty là, qui va nous présenter un petit peu ce qu'est la politique du médicament aujourd'hui, rapidement, disons, en posant d'abord un peu comment un produit devient un médicament, en quelque sorte, et puis ensuite les problèmes qui se posent aujourd'hui sous différents angles, avec y compris des aspects inquiétants.
Ils sont nombreux les problèmes. Alors, d'abord, un grand merci à Philippe Laville pour son invitation et à vous tous du groupe de travail. Et j'ai intitulé mon propos Bon usage des médicaments, passer des bonnes intentions au respect de droits fondamentaux. Je vais m'en expliquer un petit peu plus loin. Je tiens à préciser d'abord que je n'ai aucun lien d'intérêt depuis près de 17 ans avec les entreprises qui fabriquent ou commercialisent des produits de santé. J'en ai eu, je suis passé 15 ans dans l'industrie du médicament, sur des métiers du marketing et de la direction des ventes. J'ai terminé dans une grande Big Pharma, Bristol Myers Squibb et UPSA, vous voyez, à l'époque de l'ensemble des produits en ville et à l'hôpital sur un petit territoire, enfin un petit territoire, l'océan Indien et l'Afrique de l'Est anglophone. Mais bon, j'ai connu des pharmas un peu différentes. Et puis avant ça, donc je suis pharmacien, je suis ancien interne des hôpitaux de Paris et je suis diplômé d'une grande école de commerce à Paris et San Francisco. Et puis voilà, bon, j'ai un peu viré ma cutie. On s'est quitté avec l'industrie en 2002 et je suis actuellement donc consultant, expert conseil indépendant pour une prise en charge médicamenteuse mieux sécurisée, plus pertinente et plus efficiente. Alors, je suis membre du groupe Princeps qui organisons depuis 2012 et ça sera la 8e édition les 17 et 18 mai prochains, le colloque sous surmédicalisation, surdiagnostic, sur traitement, dit colloque de Bobigny, avec quelques collègues. Et puis, je suis aussi membre de l'association Formindep. Pourquoi ce titre? J'ai pris là juste un petit extrait, alors peut-être pas, c'est pas le moins important, hein, dans la loi du droit des malades, hein, loi Kouchner. Le droit, donc toute personne a, compte tenu de son état de santé, de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés. Quand on a dit ça, on n'a rien dit, en fait. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce sont des belles intentions, mais on n'est pas assez précis dans les objectifs, hein. Et Philippe m'a demandé, pour certains d'entre vous, de repréciser un petit peu la séquence à la fois des quatre phases des essais cliniques et aussi le circuit administratif qui conduit à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Alors, on a d'abord la phase 1. Alors, j'insiste pour préciser que je ne me suis pas embêté. J'ai repris le texte qui est en ligne sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Et d'ailleurs, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir faire une petite explication de texte et voir déjà que là, il y a des choses qui clochent. La phase 1, ce sont des études qui sont faites chez des volontaires sains. L'idée étant d'analyser de façon assez détaillée la pharmacocinétique, hein, de faire des dosages, et c'est fait sur un petit nombre de volontaires sains. Bon, alors là, pour l'instant, ça va. Phase 2, déjà, là, on va. Administration de médicaments à un petit nombre de patients pour rechercher la plus petite dose efficace et observer des effets secondaires nocifs en utilisant différentes doses. Alors, effet secondaire nocif, à ce stade-là, vu la faible population, c'est forcément des effets indésirables fréquents, hein. Et donc, on ne va pas avoir forcément, à ce stade, on verra que c'est beaucoup plus tard, et c'est le plus souvent quand les médicaments sont commercialisés et sont utilisés sur de larges populations, qu'on commence à connaître véritablement les effets secondaires graves qui sont souvent rares, heureusement, mais qui sont graves. Là où je vais être un peu plus critique, c'est sur la phase 3. On nous dit comparaison de l'efficacité du nouveau médicament par rapport au traitement de référence. lorsque celui-ci existe, et ou à un placebo lorsqu'aucun traitement n'existe. Alors ça, c'est parfaitement faux déjà, c'est mensonger de dire ça. La plupart, il y a encore beaucoup d'essais cliniques qui sont faits versus placebo. C'est inadmissible. Hein. On verra dans les solutions que je propose, c'est un des éléments. Aujourd'hui, on ne devrait plus accepter de mettre sur le marché un médicament sur la base d'une étude versus placebo. On vous dit un peu plus loin, les patients sont sélectionnés sur des critères précis qui permettront de répondre à la question de l'efficacité et du bénéfice du médicament. Sur le... Ah, un placebo. Qu'est-ce que c'est qu'un placebo?
Ça, je sais, mais c'est pas ça. Je comprends pas l'expérimentation dite sur l'effet placebo.
Non, j'ai pas parlé de... Non. Il s'agit, la phase 3, d'études comparatives. Mais quand on se compare à rien, c'est pas très intéressant. Surtout quand on a une pléthore de médicaments dans un certain nombre d'indications. Hein. La plupart des indications, il y a maintenant... On a plus de 10 000... présentation pharmaceutique. C'est considérable. Hein. Et donc, au jour d'aujourd'hui...
J'ai bien compris, j'essaie de résumer pour voir si j'ai bien compris par rapport à la question.
Oui.
Ça voudrait dire que tu préconiserais qu'il n'y ait plus besoin d'être versus placebo, c'est-à-dire versus quelque chose qui n'est pas reconnu, qui est du rien du tout, quoi, un petit machin, mais que ça soit entre des médicaments existants
bien sûr.
Et une nouvelle molécule.
Alors, je vais avoir l'occasion dans le circuit administratif de repréciser ça, mais évidemment, il faut aujourd'hui exiger, les pouvoirs publics devraient exiger des études comparatives versus le comparateur actif le plus efficace. Hein ? Et c'est très très rarement le cas. Là, je disais aussi critères précis. Là, je voudrais préciser à ce stade que ce sont les industriels qui définissent le protocole. Et ça, c'est inadmissible déjà. C'est inadmissible. C'est eux qui définissent dans quelle direction ils vont mener leurs recherches. C'est pas non plus très favorable aux intérêts de la collectivité des patients. Hein. Phase 4, ce sont les essais qui sont réalisés après la commercialisation. Bon, ces essais, en fait, sont des fois exigés de la part des autorités de santé, notamment la Haute Autorité de Santé, quand, justement, il manque des données, il manque des études comparatives, mais ces essais ne sont jamais réalisés. Le médicament est déjà commercialisé, le laboratoire est satisfait, il va pouvoir élargir les indications. On va s'arrêter juste un petit peu sur cette partie en haut, et vous expliquer qu'en fait, plutôt que de circuit, moi je parle de chaîne administrative simplifiée avant commercialisation des médicaments. Pourquoi ? Parce que en fait, on a une cascade d'évaluations qui sont réalisées par des organismes différents. Hein, et vous allez voir que ça, déjà ça, il faudrait revoir ça totalement. Pourquoi ? Premièrement, on examine le rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans le comparatif. On regarde pour un médicament si les bénéfices cliniques qu'il apporte sont supérieurs aux risques, aux effets secondaires. Et si c'est le cas, on le met sur le marché. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. On nous met des MeToo, des médicaments qui n'apportent rien, des fois des régressions, hein. Souvent des régressions. Alors, un MeToo, c'est un médicament qui a, dont la substance active a une formule légèrement modifiée, mais qui appartient à la même famille, à la même classe, qui va avoir les mêmes effets, en gros, et qui permet de breveter le médicament, et donc d'avoir une exclusivité de commercialisation pendant 10 ou 15 ans. Bon. L'ANSM, et aujourd'hui, je l'ai mis en tout petit, vous voyez, c'est un guichet d'enregistrement, puisque la quasi-totalité maintenant des autorisations de mise sur le marché en France proviennent d'un enregistrement centralisé et d'une AMM centralisée qui est faite par l'agence européenne, l'EMA, que j'ai mis en gros. Alors, c'est pas très bon d'ailleurs parce que l'EMA travaille peut-être plus mal que l'ANSM. Et bon, on a des médicaments qui sont quand même rarement bien évalués, qui arrivent sur le marché. Bon. Alors ensuite, et seulement après, le médicament est déjà accepté, il est déjà mis sur le marché. C'est ça qui est anormal. on s'interroge de savoir si il n'y a pas déjà dans l'arsenal thérapeutique des médicaments équivalents, etc. Et on va, c'est à ce moment-là, la Haute Autorité de Santé, sa commission de la transparence, va faire une évaluation comparative. Moi, ce qui m'intéresse surtout, hein, elle fait deux choses, elle fait la SMR et le SMR. Le SMR, ils sont tous importants. Alors, si les SMR est faible, le médicament ne va pas être remboursé ou insuffisant.
Insuffisant.
Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai vu sur un mail qu'on me présentait comme un pharmacologue. Je ne suis pas pharmacologue. Je ne suis pas suffisamment calé sur les mécanismes. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la clinique. Je suis plutôt pharmacien clinicien, même si je n'exerce pas. Et ce qui m'intéresse, c'est le bénéfice clinique et c'est les risques aussi, les risques sévères notamment, des médicaments. À ce stade-là, c'est donc la Haute Autorité de Santé qui va évaluer le progrès thérapeutique. Et ça va conditionner le remboursement et puis l'inscription, par exemple, sur la liste en sus pour des médicaments très coûteux. Mais c'est la ministre qui décide. Et encore après, parce que la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé se contrefiche et ne veut pas entendre parler du prix. Par contre, si les membres du collège constatent qu'il y a un risque d'impact financier très important pour l'assurance maladie, il va demander une étude médico-économique à la commission d'évaluation, la commission économique et de santé publique. Et voilà, alors c'est le cas, par exemple, là, j'ai dû regarder un dossier de près pour une journaliste qui m'a appelé hier et qui s'intéressait aux thérapies cellulaires, là, les nouveaux CAR T. Donc, les noms de marque, c'est Kymriah, et Kymriah, c'est Novartis, et également Yescarta, c'est Gilead, encore Gilead. Et donc, ces médicaments, le flacon, l'un est à 320 000 euros et l'autre 350 000 euros. Je ne vais pas en parler pour l'instant, mais on pourra, dans la discussion, en parler aussi. J'ai fait une liste non exhaustive de droits fondamentaux qui me paraissent non respectés dans le domaine du bon usage du médicament. Alors, on va les voir un par un. Je passe sur cette diapo. On va les défiler un par un. Premièrement, le droit du patient à une prise en charge médicamenteuse sécurisée, tout particulièrement à l'hôpital, lieu à haut risque d'erreur médicamenteuse. J'ai derrière moi une bonne trentaine d'audits dans une quinzaine d'établissements hospitaliers de tout genre, des CHU, la Paix Marseille, le CHU de Caen, mais aussi dans des centres... des établissements de santé mentale, de SSR, des EHPAD, etc. Et je suis quelque part devenu un expert concernant la sécurité du circuit du médicament à l'hôpital. C'est une catastrophe, une vraie catastrophe. Et là, la technique ne nous permet pas de passer cette vidéo, mais vous aurez le diaporama et la vidéo est intégrée dans le diaporama, vous pourrez écouter. Émile est mort du côté d'Amiens parce que un médecin avait prescrit, alors qu'il avait fait une chute, il avait des douleurs, un anti-inflammatoire non stéroïdien sans se soucier de savoir s'il n'était pas sous anticoagulant oraux. Et il a fait une hémorragie digestive, il en est mort. Et donc, la première étape à l'entrée d'un malade à l'hôpital, qui devrait être systématiquement faite, c'est ce qu'on appelle la conciliation médicamenteuse, et ça consiste à identifier de façon exhaustive, la plus complète possible, les médicaments à prendre ou pris par le patient, parce que tout simplement, il faut savoir qu'est-ce que prend déjà ce patient pour se positionner. Est-ce que j'arrête ce traitement pendant le séjour hospitalier, je le suspends pendant une intervention chirurgicale, je le remplace par autre chose? Vous voyez, bon, c'est quelque chose d'important. Et
ça n'est pas fait.
Alors, il y a une étude menée, coordonnée en France par la HAS et à l'instigation de l'OMS, qui a été menée dans une quinzaine d'établissements publics et privés de différentes tailles, d'hôpitaux français. et qui a porté sur près de 23 000 patients conciliés. Qu'est-ce qu'on constate ? Seulement 15% des patients éligibles font l'objet d'une conciliation uniquement par les pharmaciens. Alors, je tiens à préciser ici que...
Pharmaciens hospitaliers.
Je tiens à préciser ici que la conciliation médicamenteuse, ça n'est rien d'autre, comme je l'évoquais à l'instant, que la première étape de la prescription. Donc, c'est une étape sous la responsabilité du médecin. D'accord ? Ils ne le font pas, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Et ils ne sont pas outillés. Il se trouve que c'est moi qui ai lancé le 9 mai 2008, il y a plus de 10 ans, en présentant ma vision, la journée que j'ai animée avec l'équipe projet de la Haute Autorité de Santé en charge de la certification des logiciels d'aide à la prescription à l'hôpital, les LAP hospitaliers. Je leur avais donné comme forte recommandation d'exiger de la part des éditeurs de logiciels qu'ils équipent leur logiciel d'un module d'aide à la conciliation médicamenteuse s'appuyant sur les données de l'historique des remboursements. L'historique des remboursements, c'est un téléservice de l'assurance maladie qui permet en quelques secondes, avec une carte vitale, une carte CPS, d'accéder à l'historique sur un an de tous les médicaments remboursés en ville pour un patient, pour presque 100% aujourd'hui de la population française. Certains logiciels de médecins libéraux le font en back-office. Aucun hôpital en janvier 2019, aujourd'hui, n'est capable d'identifier, simplement en se connectant sur les serveurs de l'assurance maladie, les médicaments pris à prendre par le patient. Il y a une deuxième étape qui m'intéresse. Alors, elle n'est pas encore dans les tuyaux de la certification des logiciels. Les logiciels, il y a deux choses aujourd'hui. C'est les LAP, donc les logiciels d'aide à la prescription, et puis il y a les logiciels d'aide à la dispensation pour les pharmaciens en ville et à l'hôpital, qui sont certifiés. Mais on n'a pas été jusqu'au stade de l'infirmière à qui on demande bêtement de cocher les cases « j'ai administré le médicament ». Si ce n'est pas le bon médicament, ce n'est pas grave, on s'en fiche. Elle a coché sa case. La préparation des doses à administrer, dont les perfusions, dont les injections, les gouttes buvables, et leur étiquetage ne sont toujours pas pris en charge par les logiciels de production de soins. C'est contre un modèle d'étiquette. Je ne vais pas m'attarder sur cette diapo. Simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est que ni la DGOS, qui a abandonné en 2015 son projet de certifier les exigences fonctionnelles des logiciels de production de soins, hein, vous aurez la dépêche APM News en cliquant sur le lien, au motif que les éditeurs ne venaient pas aux réunions. Vous vous rendez compte quand même où on en est ? Aux États-Unis, ils ont fait une réforme. Ni donc le référentiel de certification HAS. Alors, vous savez, en 2008, je leur avais dit aussi, il faut immédiatement que vous auto-saisissiez la HAS, non pas seulement de l'étape de prescription, mais de toutes les étapes à l'hôpital, c'est-à-dire prescription, c'est-à-dire préparation des doses administrées, c'est-à-dire alors dispensation avant, et puis administration. Bon, ben on est toujours au même point, ils n'ont pas avancé, ils m'ont dit « Ah ben non, le législateur ne nous a pas demandé de le faire, alors on ne va pas le faire. » Là, c'est quelque chose, alors c'est ubuesque quoi. Ça s'appelle la lecture code-barre au lit du malade ou au chevet des résidents de chaque dose de médicament avant administration par l'infirmière, couplée à la prescription informatisée. Donc quand on a une prescription informatisée et qu'on a une lecture code-barre, on est capable de vérifier ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons, en France on appelle ça les 5B, mais dans les pays anglo-saxons ils appellent ça les 5 droits. Donc, vous voyez, on est dans le droit là, hein, dans les droits. Le bon médicament au bon patient, au bon moment, à la bonne dose, par la bonne voie. Ça, on peut le faire sans faire appel aux yeux fatigués de l'infirmière continuellement dérangée dans ses tâches. Aux États-Unis, ils ont commencé à mettre en place la lecture code-barre en 1996 dans les hôpitaux du vétéran de Safer. Ils ont terminé en 2000. Et puis, en 2004, le ministère de la Santé américain a dit « On vous donne 2 ans, messieurs les industriels, pour nous mettre des codes-barres derrière chaque comprimé, chaque gélule, chaque dose de médicament, pour les besoins de l'hôpital. » Et le 24 avril 2006, il y avait des doses aux États-Unis avec des codes-barres derrière chaque dose de médicament. Ils ont déployé en totalité, depuis 4-5 ans maintenant, après avoir évalué le bénéfice, c'est-à-dire le nombre d'erreurs médicamenteuses évitées, considérable. Et depuis 2010, ils ne font pas de la sous-déclaration massive d'événements indésirables graves, comme on fait en France, aux différents guichets. Eux, ils font du data mining, hein, c'est-à-dire de la fouille informatique, sur des dizaines de milliers de dossiers médicaux informatisés, structurés. Et ils ont repéré 21 conditions d'événements nosocomiaux sévères à l'hôpital, dont 5 qui concernent le médicament. 5 classes de médicaments qui sont surveillées comme le lait sur le gaz. Ils ont estimé, sur la période 2011-2015, avoir... Alors, en demandant deux choses. La conciliation médicamenteuse d'un séjour sur deux. La mise en place de la lecture code-barre qui a été généralisée. Ils ont évité près de 10 000 décès, 1 300 000 événements indésirables graves médicamenteux et ils ont épargné 2,4 milliards de dollars. La lecture code-barre n'est déployée dans aucun des 47 pays du Conseil de l'Europe. Il n'y a même pas de projet en cours. Plutôt que la lecture code-barre au lit du malade pour sécuriser le patient, l'EFPIA, qui est le lobby européen du médicament, le LEM au niveau européen, a réussi à obtenir à la place, en jouant au niveau de la Commission européenne, une usine à gaz qui s'appelle la sérialisation de masse des boîtes de médicaments, dont la date butoir est très bientôt, c'est pas la semaine prochaine, mais presque, le 9 février 2019. Il s'agira pour les pharmaciens, aussi bien en ville qu'à l'hôpital, de scanner chaque boîte de médicaments, parce qu'il y a un code-barre depuis, en France depuis 2012, 2011 même, sur chaque boîte de médicaments. Ce qu'ils ne font pas aujourd'hui, hein, bien sûr. Quand ils ont 8 boîtes de Doliprane à dispenser pour un mois de traitement, ils scannent une boîte et ils tapent 12. Hein, ou 8, pardon, c'est 8. Bon. Là, on va leur demander de faire un travail qu'ils ne font pas. Hein. Donc, c'est très productif, hein, scanner les boîtes. Et je ne veux pas non plus passer trop de temps dessus. Il faut savoir que la falsification, parce que ce qui était mis en avant, c'est on veut éviter la falsification des médicaments. En France, il n'y en a pas. Pas du tout. Sauf peut-être si vous achetez du Viagra sur Internet. Mais chez les gros 6 répartiteurs, chez les pharmaciens de ville, dans les pharmacies hospitalières, c'est zéro. Zéro, zéro. Et donc...
À quoi ça sert alors là?
Ça ne sert à rien. Ben, vous écouterez. Alors, je vous ai mis le lien. J'ai fait un tweet. J'ai interpellé, et il répond, Patrick Oscar, qui est le délégué général du GIE GERS et du Club Interpharmaceutique, qui chapeaute la mise en place et le déploiement. Ils vont, à mon avis, ça ne va pas marcher, hein, mais on verra. Mais en tout cas, vous verrez la vidéo, c'était aux Amphis de la Santé. Il est quand même, c'est dingue les réponses qu'il fait, quoi. Bon, je veux dire, je crois qu'ils n'ont pas pris conscience de la gravité de la situation, hein, franchement.
Et est-ce que je peux vous poser une question juste pour...
Oui.
Qu'est-ce qui bloque par rapport à l'autre procédure? C'est-à-dire, là, ils ont investi dans un matériel pour les boîtes,
oui.
Enfin, les codes-barres des boîtes.
Oui.
Mais qu'est-ce qui empêche? Ou alors,
l'incompétence des gens. J'ai rencontré d'abord avec un pharmacien qui a... Bon, alors il y a un problème déjà de fond, c'est qu'on n'a pas les doses, alors que les pharmaciens hospitaliers ont demandé ça, réclamé ça depuis 30 ans. Que M. Xavier Bertrand a été à deux doigts de comprendre la situation, il a répondu complètement à côté. Ils n'ont toujours pas obtenu ce qu'on appelle le conditionnement unitaire hospitalier. Hein? On a encore des blisters dans les hôpitaux qui sont découpés, ce qui fait qu'on a beaucoup de médicaments qu'on ne peut même plus identifier, hein, et qui sont donnés quand même. Bon. Et quand on fait des audits, moi je fais des audits sérieux sur ce sujet-là. Par exemple, je fais des contrôles de conformité du contenu des piluliers à la prescription. Hein. Et quand on a des tiroirs patients, je compte à 3 reprises dans le tiroir ce qui reste après administration, vérifiant avec les... Bon, Le nombre d'erreurs, mais vous ne pouvez pas imaginer, c'est dingue, c'est dingue. On est dans un archaïsme à l'hôpital. Les boîtes de petits pois sont beaucoup plus sécurisées dans les supermarchés que les patients, que les médicaments dans les hôpitaux. C'est hallucinant. Et j'ai rencontré d'abord avec un pharmacien qui avait compté et qui montré qu'il n'y avait que 21% des doses de médicaments dans son hôpital, Coulommiers, qui dépend quand même du groupe hospitalier est parisien, donc c'est un gros truc avec, peu importe. Il avait montré qu'il n'y avait que 21% des doses qui avaient un code data matrix et que seulement 12% des doses étaient scannables avec une douchette. Hein. Donc vous voyez, aujourd'hui, les hôpitaux qui voudraient le faire ne pourraient pas. Ah oui, c'est un problème de conneries, d'incompétence caractérisée. Alors l'industrie pharmaceutique, elle s'en fout parce que elle, ce qui l'intéresse, c'est quand elle livre des palettes de médicaments sur les quais de la pharmacie. Après, le reste, ils s'en moquent complètement. Hein. C'est du chiffre d'affaires. Donc ça, ils connaissent même pas. Hein. J'ai eu l'occasion de dîner une fois au Sénat, d'ailleurs, avec des logisticiens des grands groupes. Il y avait Pfizer, il y avait Sanofi. Ils ne connaissent pas du tout ce qui se passe dans un hôpital. Hein. Alors, leurs visiteurs médicaux savent, mais ils ne sont pas dans la boucle hein, au niveau... On pourrait faire une réunion rien que sur ce sujet. Hein. C'est édifiant. Et donc, voilà, je passe parce que sinon, on ne va jamais s'arrêter. Autre chose intéressante, c'est le deuxième point. Le droit du patient et des professionnels de santé qui... le prennent en charge, c'est-à-dire les autres médecins, pharmaciens, infirmières, de connaître le motif, c'est-à-dire en fait l'indication retenue pour chaque médicament prescrit par son ou ses médecins. Ce que je veux dire, c'est que à une époque où on veut la décision médicale partagée, le consentement éclairé, une relation vraiment importante entre le médecin et le patient, on n'est pas gêné, finalement, que le médecin cache son intention de traiter, quelle est l'indication qu'il retient. Alors, j'ajoute qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont plusieurs indications. Hein, donc, c'est important de savoir. Bon. Et c'est pas pour les embêter qu'on demande ça, parce qu'en plus, ça peut se faire très facilement. Il suffit de mémoriser, il peut avoir des favoris hein, dans son logiciel, et il peut ne changer l'indication que par défaut. Mais c'est quelque chose qui avait été, que j'avais proposé, hein, j'avais été auditionné par Alain-Michel Cerretti pour les assises de médicaments, hein, après l'éclatement du scandale Mediator, et il avait repris cette proposition que j'avais faite de... mentionner, il avait été plus loin que moi, parce que je n'avais pas parlé de mentionner sur l'ordonnance, mais plus de tracer l'indication pour chaque médicament prescrit dans le dossier patient, y compris le dossier médical partagé maintenant. Alors, si on fait ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'abord une plus grande implication du patient et du médecin dans la décision médicale partagée, bon, c'est pas mal. Deuxièmement, ça permet une meilleure connaissance par le médecin des indications autorisées par l'AMM, mais aussi de celles qui sont hors AMM. Hein, c'est de la formation médicale continue, de voir sur son écran, de voir cliquer ou changer l'indication. Et puis, c'est tout simplement le point de départ pour faire de l'aide décisionnelle dans le logiciel. Hein, on nous parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nos logiciels de prescription sont incapables d'en faire parce qu'ils n'ont pas l'indication. Si on a l'indication, il y a des... logiciel au Royaume-Uni qui, depuis 2002, propose par exemple, pour un médicament donné, eh bien, vous avez un pop-up, une fenêtre qui s'ouvre et qui dit « Vous pouvez, à la place, prescrire ce médicament-là qui a le même niveau qui apporte la même amélioration du service médical rendu et qui est moins cher. » Ou « Vous pouvez prescrire ce médicament qui est mieux documenté en termes de preuves cliniques et qui a une ASMR supérieure. » Voilà. Bon, ça, on ne le fait pas. On a failli le faire. Il y a eu une tentative de commencer à renseigner pour certains médicaments. C'est dans une loi de financement de la Sécurité sociale. Alors, trois. Là, on arrive dans le dur, dans le très dur. Le droit des patients, des professionnels de santé et de tout usager à une information loyale, fiable, complète sur les bénéfices cliniques et les risques de chaque médicament. Alors, c'est là le problème, c'est qu'il existe différents modes de représentation des bénéfices et des risques associés à un médicament lorsqu'il s'agit d'analyser des résultats obtenus lors des essais cliniques. Et alors là, l'expression qui est la plus employée, parce que pourquoi ? C'est les firmes qui financent les essais cliniques. Elles exigent de la part des investigateurs qu'ils expriment les résultats de cette façon, qui est une façon qui exagère énormément le bénéfice des médicaments. C'est ce qu'on appelle la réduction du risque relatif. Alors, je m'explique. On a ici l'étude HPS, qui est une étude faite avec la simvastatine sur plus de 20 000 patients, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine en 2002. Et donc, vous avez les deux groupes, un groupe placebo, vous voyez, on a quand même beaucoup d'études avec placebo, et la simvastatine. Et vous avez en mortalité cardiovasculaire un taux de décès cardiovasculaire de 9,1% dans le groupe placebo, de 7,6%. Vous faites 7,6 moins 9,1 divisé par 9,1, ça fait 17%. Waouh ! On a réduit de 17% la mortalité cardiovasculaire avec la simvastatine. Oh ! Pour la mortalité globale, vous faites 12,9 moins 14,7 divisé par 14,7, ça vous fait 13%. On a réduit la mortalité toute cause de 13%. Mais le problème, c'est que si on exprime les résultats avec un mode d'expression qui est plus juste et qui reflète plus la réalité, qui s'appelle la réduction du risque absolu, on tombe à 1,5%. C'est moins flatteur, hein. 1,5%. Ça veut dire qu'il faut traiter 66 patients pendant 5 ans, l'essai a duré 5 ans, pour éviter un décès cardiovasculaire. 66 patients, et qu'on va traiter, bien sûr, 65 patients inutilement, puisqu'ils ne vont pas ils ne vont pas éviter cet événement-là. Alors, j'ai un exemple encore plus caricatural. C'est une étude qui est sortie au mois de novembre dans le New England. Et on a utilisé là pendant 5 ans, alors c'est une étude, grosse étude, parce qu'il y avait une double randomisation avec des oméga-3, donc c'est les huiles de poisson, hein, comme le saumon. Ça serait peut-être pour ça que les Japonais vivent, et les Japonaises vivent plus longtemps que nous, mais enfin, apparemment, ça ne marche pas trop bien. Et donc, ils avaient regardé aussi la vitamine D pour voir si sur les maladies cardiovasculaires et les cancers, il y avait un impact. Alors, globalement, sur les critères primaires, mortalité toute cause, mortalité cardiovasculaire, mortalité par cancer, ces trois critères ne sortent pas. Mais on a des critères secondaires qui sortent, et en particulier les décès par infarctus du myocarde. Et en fait, on a 26 décès dans le groupe placebo et seulement 13 décès dans le groupe traité par les oméga-3. L'industrie pharmaceutique dirait, mais on diminue de 50% le risque de décès par infarctus du myocarde. Vous voyez ? Si on s'intéresse à la réduction du risque absolu, on s'aperçoit qu'il y avait 13 000 patients dans chaque groupe. Donc il faut traiter 1 000 patients pendant 5 ans, tous les jours, avec une gélule qui contient de l'oméga-3 pour éviter un seul décès. Vous dites ça au patient, il va prendre le traitement, vous croyez ? Bon, il y en a certainement, faut respecter leur décision, mais je ne pense pas que tous les patients choisissent de prendre le traitement.
On n'est jamais dans un comparatif avec un autre produit, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un comparatif avec on ne fait rien ou on prend ce...
Là, oui, on vient de voir quelques essais randomisés. Effectivement, là, dans ces cas-là, on a des placebos. Hein, donc, mais on peut avoir, je vais vous montrer des choses plus loin où il y a un comparateur actif. Donc j'ai abordé tout à l'heure la notion de nombre. Alors le nombre ici, hein, il est intéressant parce que le nombre de patients à traiter pour éviter un décès après 5 ans par infarctus du myocarde, il est de 996 exactement. C'est pas 1 pour 1000, c'est 1 sur 996. Bon. Mais vous voyez, c'est cette notion qui pourrait être d'ailleurs le mode d'expression que les patients préfèrent. Il y a des études, hein, beaucoup d'études là-dessus, ça fait 30 ans qu'on parle du NNT, Number Needed to Treat. Mais on parle aussi du Number Needed to Harm. Alors là, c'est dommage parce que vous ne voyez pas, mais je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est intéressant. C'est l'étude Sprint qui a révolutionné les recommandations aux États-Unis. On est descendu maintenant à 130 mm de mercure pour rentrer dans la maladie de l'hypertension artérielle. C'est dingue, hein. Et cette étude, vous voyez, alors c'est très intéressant parce que Alan Cassels, qui tient le blog, un super blog aux États-Unis, vous avez toutes les références et puis les liens pour aller voir. Eh bien, il a titré « Les patients informés ont besoin de savoir une chose qui n'est pas fournie dans les résultats de l'étude Sprint, c'est quels sont les bénéfices, les nombres absolus de bénéfices et de risques ». Voilà. Et alors lui, il les a calculés, il a sorti un tableau là, et vous avez donc en haut les bénéfices cliniques, c'est-à-dire les défaillances cardiaques, hein, insuffisance cardiaque, les décès cardiovasculaires, et puis les décès toutes causes. Et donc pour éviter un décès toutes causes dans Sprint, il faut traiter 83 patients. Pour éviter une insuffisance cardiaque congestive, il faut traiter 125 patients. Par contre, pour avoir des effets secondaires parfois graves, alors ici, on a tout en bas, les effets secondaires sévères, non fatales. Sévères, c'est... Eh bien, 42, vous voyez qu'on nuit, j'ai oublié de dire tout à l'heure, hein, primum, no cere, hein, c'est ne pas nuire, c'est le premier principe du serment d'Hippocrate en médecine, ne pas nuire. Donc vous voyez qu'on nuit toujours plus vite, hein, qu'on est bénéfique pour le patient. Hein. Alors évidemment, éviter un décès toute cause, c'est quand même énorme. Hein. Si on y arrive, c'est très bien. Mais bon, voilà. J'ai fait un article qui a été publié sur le site du Formindep et qui retrace en trois volets un imbroglio politico-médiatique qui a eu lieu en 2018. D'abord, on a eu un rapport sénatorial de la MEX du Sénat, la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat, une sous-commission de la Commission des affaires sociales, et un rapport donc qui visait finalement à accélérer, l'article s'appelle « Accès au marché des nouveaux médicaments ». Pourquoi accélérer ? Accélérer la mise sur le marché des nouveaux médicaments, en particulier là, c'était de rendre pour les nouvelles immunothérapies du cancer automatique quelque part l'autorisation pour les nouvelles indications. Bon, je passe sur l'épisode politico-médiatique avec simplement les associations comme celle d'Olivier Maguet, Prescrire et quelques autres n'ont même pas été sollicitées par les sénateurs, hein, qui n'ont consulté que des salariés de l'industrie pharmaceutique ou des leaders d'opinion très, 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 très largement rémunérés par les firmes. Et en plus, ils ont même pris des propositions écrites de la part des trois firmes qui commercialisent les premières immunothérapies sur le marché. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de ces immunothérapies. Et on va prendre un exemple qui est celui qui est le plus présent, enfin l'immunothérapie la plus performante, hein, c'est le Keytruda, le pembrolizumab, en première ligne dans certains cancers bronchiques non petites cellules. Et donc il a eu droit, ce médicament, eh bien, à une autorisation en première ligne, et il coûte 92 000 euros par patient et par an. Alors, je ne vais pas trop parler des prix, parce que je crois qu'Olivier va en parler aussi tout à l'heure. Simplement, il faut savoir que là, pour évaluer, moi j'ai analysé les données publiées à 6 mois, 12 mois et 24 mois. Et pour ça, il a fallu que je prenne la publication dans le New England, mais aussi un abstract, c'est pas terrible quand même quand on prend un abstract, pour les données à 12 mois, d'une présentation au Japon. Et puis, pour les données à 24 mois, en fait, j'ai pris le communiqué de presse de MSD. Je n'ai pas trouvé, je ne pense pas, je ne suis pas sûr, mais que les données comment, actualisé à 24 mois a été publié dans une revue médicale. C'est pas sûr. Bon, toujours est-il que quand on regarde à 6, 12 et 24 mois respectivement, les gains absolus de survie sont de 9,8, 15, 5, 17%. C'est le champion toute catégorie hein, des immunothérapies. Et si on calcule les nombres de patients à traiter pour éviter un décès à 6 mois, à 12 mois, à 24 mois, eh bien, on s'aperçoit qu'on a 10 patients pour 12 mois, 6 et 6 pour... Pardon, 10 patients, c'est pour 6 mois, pardon. 6 et 6, c'est à 12 et à 24 mois. Ce qui veut dire qu'on a 5 patients sur 6 traités inutilement, sans gain de survie. Et ça veut dire 90 à 83% les coûts supplémentaires, là on est par rapport à un traitement de comparaison, qui n'est pas forcément meilleur d'ailleurs, mais bon ça c'est un détail. Les coûts supplémentaires pour éviter un décès à 6 mois, 12 mois et 24 mois s'échelonnent entre 283 000 euros et 680 000 euros pour le Keytruda en première ligne dans le cancer bronchique. Alors j'ai fait la même chose pour 7 médicaments, certains associés, pour 11 essais pivots. Et le résultat, c'est qu'on a 83 à 94% des patients qui sont traités inutilement, sans aucun allongement de leur vie. Et c'est embêtant parce que les biotests compagnons, alors pour les immunothérapies, c'est de l'histochimie, pour mesurer le pourcentage de cellules de la tumeur qui expriment le gène muté. Et là, comme on le voit, mais il faut aller chercher ça dans les suppléments des publications. C'est-à-dire que vous n'avez pas dans la publication ces informations. Il faut aller dans les suppléments et ils ne sont pas toujours publiés. Ce sont les études dites stratifiées. C'est-à-dire qu'on a regardé en fonction du pourcentage de cellules tumorales exprimant le gène, quelle était la réponse. Et comme vous pouvez le voir, à moins de 1%, moins de 5% et moins de 10%, les courbes se croisent. Et donc, ces malades n'ont aucun bénéfice à être traités à 92 000 euros de traitement par patient et par an. Et par contre, ils subissent les événements secondaires qui sont assez importants. D'ailleurs, on le voit ici, il y a même un phénomène qui a été publié dans un JAMA Oncology récemment, en 2018. Et il y a un phénomène d'hypercroissance de la tumeur pour un certain nombre de patients qui vont mourir plus vite avec l'immunothérapie. Ça a été publié. Hein. Donc, voilà. Là, le nivolumab, pas étonnant. Alors, j'en parlerai tout à l'heure, mais ce médicament-là, les patients sont éligibles dès qu'ils ont 1% de cellules qui expriment le gène. Ils n'en ont pas d'intérêt. On ne sait pas, ça n'a pas été analysé, au-dessus de 10%. Le Keytruda, hein, dont j'ai parlé juste avant, c'est 50%. C'est le seul qui a un seuil d'éligibilité fixé. À 50% de cellules tumorales exprimant le gène, on n'a pas plus de chances d'avoir un allongement de 12-16 mois, il parle de 16 mois, que de faire un 6 en lançant un dé. 1 sur 6 seulement va répondre. Donc, je ne sais pas si c'est à 75, à 80, à 90. Mais si il est clair que si on veut limiter le nombre de patients non répondeurs à ces traitements, traités inutilement, eh bien, il va falloir qu'il y ait des anatomopathologistes, des oncologues, sans lien d'intérêt, pour revoir et définir des seuils d'éligibilité. Alors, là, j'ai pas le temps. Comment ? Aucun. Alors, en fait, la commission de la transparence, d'abord l'EMA, ensuite l'ANSM, hein, dans l'ordre de notre cascade. Enfin, la commission de la transparence, on dira un petit mot, ils ont accepté ce que demandait le labo. Ils n'ont pas remis en cause la demande du labo. Ils n'ont pas dû regarder, d'ailleurs, les suppléments. Ils n'ont pas dû les regarder, les suppléments. Il y a une réunion de la commission de la transparence, parce que ça c'est une des choses qui est pas mal, hein, dans les droits récents, c'est la transparence qui est insuffisante. Hein, l'objectif pour le Formindep, par exemple, c'est bien évidemment c'est l'indépendance de l'expertise, hein, parce que, et c'est la gestion des conflits d'intérêts. Hein. Le fait de savoir qu'il y a des conflits d'intérêts, après tout, bon, non, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça nuise aux patients? Bon. Et donc, il y a une réunion de la commission de la transparence où sont entrés, comme dans un moulin, on avait viré un des membres de la commission de la transparence, qui est le membre suppléant, représentant les associations de patients, c'est Gérard Viens. Il s'est fait sortir de cette réunion parce qu'il avait été quelques années avant directeur de la chaire santé de l'ESSEC et qu'il avait fait un travail probablement avec une des firmes. Bon, il est sorti. Par contre, on a laissé rentrer les experts MSD et donc il y avait deux personnes en particulier. Il y avait une anatomopathologiste. En fait, il s'avère que c'est l'anatomopathologiste qui a coordonné, soi-disant pour l'INCa, mais sans contrôle de l'INCa, le groupe de travail des anatomopathologistes qui ont défini les critères de mesures histochimiques pour les immunothérapies PD1, PDL1. Et donc, cette dame est rentrée, plus de 300 000 euros dans la base Transparence Santé pour cette dame. Et elle est accompagnée d'un pneumologue lyonnais, pareil, plus de... Bon, presque 300 000 euros les deux, chacun. Chacun avait presque 300 000 euros. Et bon, ils ont enfumé. On voit, alors c'est une des avancées, c'est qu'on a maintenant les transcriptions intégrales des réunions de la commission de la transparence. Je vous invite à les lire, hein, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et franchement, quand on lit ça, on voit bien que les membres... Bon, autant ils sont des connaisseurs, des experts sur le médicament, autant sur les biotests, ils n'y connaissent rien, quoi. Bon, ils se sont fait bananer, mais complètement. Et donc, alors, j'en viens à dire la chose suivante. Exagérer l'efficacité clinique des médicaments, minimiser les effets secondaires, ce qu'on vient de voir là, ne sont hélas pas les seules tactiques ou manœuvres utilisées par le marketing pharmaceutique pour pousser les ventes des médicaments. Il y a un beau travail qui a été publié il y a quelques années de Brody et de Light. Et donc, ils énoncent, là, on ne voit pas, mais c'est diminuer les seuils de diagnostic. On a vu, par exemple, dans l'hypertension artérielle, donc on passe de 140, ce qui est déjà trop bas, à 130. Eh ben, on a des millions d'hypertendus à traiter en plus. Se baser sur des critères indirects, j'en dirai un mot après, parce que c'est un sujet, c'est vrai, un vrai sujet. Exagérer donc la tolérance et l'efficacité, on en a parlé. Créer de nouvelles maladies, encourager les usages non autorisés. Un petit élément là, c'est très intéressant. L'article s'appelle la loi inverse de santé publique. En fait, vous avez pour une variable physiopathologique donnée, par exemple, la tension artérielle systolique, vous avez une population, une sous-population de l'étude clinique qui a bénéficié du traitement. Et la démonstration de l'efficacité du traitement n'est faite en réalité que pour cette partie-là de la population. Et donc, ce que les industriels vont chercher à faire, évidemment, c'est d'étendre au maximum la population et donc de réduire en baissant le seuil de la maladie, on augmente le nombre de patients. Un autre sujet, c'est ce qu'on appelle les critères intermédiaires de jugement. Par exemple, la tension artérielle, dans les maladies cardiovasculaires, ce qui compte, c'est pas la tension artérielle. Ce qui compte, c'est d'éviter des décès, toutes causes, des décès cardiovasculaires, des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux. Or, je peux vous, et j'en parle un peu plus loin, alors j'en parlerai à ce moment-là. Là, vous avez, c'est la liste en sus 2017. Le nivolumab, hein, notre Opdivo de BMS, qui a allègrement le droit d'être prescrit dès qu'un seul % des cellules de la tumeur expriment le gène PD1, PDL1, eh bien, il est passé en à peine 2 ans en tête des dépenses de la liste en sus. Il a dépassé l'Avastin. C'est le médicament le plus remboursé sur la liste en sus. Oui, alors la liste en sus, c'est une réforme qui a été faite en 2004 par Douste Blasi et qui a consisté à dire, bon, ben, on commençait à avoir des médicaments très onéreux, ben, l'Avastin, l'Herceptin, etc. Et on s'est dit, pour ne pas pénaliser les hôpitaux, eh bien, l'assurance maladie va rembourser à l'euro l'euro ces médicaments. Donc, ils sont gratuits pour les hôpitaux. Alors, on va voir que c'est un effet. Je vais vous faire la primeur de quelque chose que je viens de découvrir et qui est assez consternant. C'est ainsi qu'on a créé cette liste. Et quelques années plus tard, alors c'est une liste où on a suivi, on a vu qu'il y avait une inflation des dépenses importante et qu'on radiait très peu souvent de médicaments, qu'on en faisait rentrer, mais qu'on n'en faisait pas sortir. Donc, ça a enflé. Et puis, il y a eu un rapport de l'IGAS et j'ai eu la surprise d'avoir un de mes articles repris intégralement avec la bibliographie par les deux inspecteurs de l'IGAS qui ont donc fait un rapport sur le financement de la liste en sus et qui ont un peu épousé ce que je recommandais depuis des années, c'est-à-dire de faire une gestion indication par indication de la liste en sus. Et il y avait déjà des règles, mais elles n'étaient pas appliquées par la ministre ou les ministres qui se sont succédés. Et en l'occurrence, lorsque l'ASMR, le progrès thérapeutique, est jugé nul, ASMR de niveau 5, ou mineur, ASMR de niveau 4, normalement, ces médicaments n'ont pas lieu d'être sur la liste en sus. Eh bien, vous me direz, le Lavastin, il n'a que des indications avec ASMR 4 ou 5. Il n'aurait jamais dû figurer sur cette liste, jamais. L'Herceptin, c'est à peu près pareil. Bon. Une observation qui est intéressante, alors là, vous ne pouvez pas voir, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'avais fait en 2011 et en 2012 un benchmark des 29 CHU métropolitains sur la part dans leur budget principal consacré aux médicaments et aux dispositifs médicaux. C'est ce qu'on appelle le titre 2 dans la comptabilité des hôpitaux. Et j'avais regardé les autres postes de dépenses principaux qui sont les charges de personnel et en particulier le détail charges de personnel médical et non médical. Alors, ce que je peux vous dire, là, je n'ai pas toutes les données, je vais saisir la CADA parce que certains hôpitaux ne diffusent pas ces données. On leur demande, ils les donnent pas. Je vais saisir la CADA, en particulier la Paix de Paris. Et en gros, ce que je peux vous dire avec les... Je n'ai pas tout fait encore, hein, j'en ai suffisamment en 2007 et en 2017. On passe de 18% du budget pour le titre 2, médicaments, dispositifs médicaux, à peu près 24%, c'est-à-dire qu'il a augmenté de 30%. Et vous savez ce qui a diminué ? Ça a été au détriment de quoi ? Eh bien, des personnels non médicaux, c'est-à-dire on vire des infirmières, des aides-soignantes, des administratifs pour payer les médicaments. On parlait tout à l'heure des ARS, hein, qui sont des préfets, on disait c'est un préfet de santé, l'ARS. C'est Jean-Luc, je crois, qui a employé cette expression. Parce que les hôpitaux se contrefichent. Vous avez devant vous quelqu'un qui a fait une prestation en sous-traitance d'un grand cabinet et même d'une autre structure qui fait des audits et dont la mission a été pour un CHU de proposer des pistes d'économie sans perte de chance pour les patients. Et j'ai un directeur qui m'a dit « Mais vous me proposez des pistes d'économie sur la liste en sus, mais on s'en fiche, c'est remboursé. » Il s'en contrefiche. Alors, il y a un truc dont il se contrefiche encore plus et qui est encore plus important comme dépense sur les médicaments, c'est ce qu'on appelle les PHMEV, les prescriptions hospitalières de médicaments exécutés sur l'enveloppe de la ville. C'est-à-dire, là, ce sont les prescriptions faites par des médecins spécialistes en consultation. Le malade part avec l'ordonnance et se fait délivrer le médicament en officine de ville. Alors, déjà, les médicaments de la liste en sus, les directeurs des hôpitaux s'en désintéressent, mais complètement. Alors, ceux qui sont prescrits à des patients ambulatoires, mais alors, ils s'en foutent. Et d'ailleurs, Mme Buzyn, après avoir dit le 14 novembre 2017, en ouvrant, alors qu'elle était déjà ministre, en ouvrant le colloque « Pertinence du concept à l'action de la HAS », en disant la main sur le cœur que la pertinence était une de ses priorités de son mandat. Le 17 novembre, trois jours plus tard, elle cède face au lobby des fédérations hospitalières, probablement armées par les firmes pharmaceutiques, et repousse en 2020 les sanctions que auraient pu prendre les agences régionales de santé à l'égard des hôpitaux dans le cadre des CAQES. Les CAQES sont les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins. C'est le contrat qui regroupe tous les contrats qu'il y avait. Alors c'est vrai que les années précédentes, hein, depuis 20 ans, il n'y a jamais eu de sanctions financières. Aucun hôpital n'a été sanctionné ou vraiment à la marge. Il y a eu quelques contrats signés entre les ARS et certains CHU. Et puis, c'est tout, il n'y a pas eu de sanctions. Bon, mais là, on retire même les sanctions. L'idée même d'avoir une sanction, c'est du pain béni, quoi. Bon, on est dans un domaine quand même qui interpelle. Là, j'étais sur un autre sujet, l'avant-dernier sujet. Oui.
C'est un phénomène assez ancien, ça, parce que si j'ai bon souvenir, l'affaire du Vioxx, c'était passé un peu comme ça.
Ah non, le Vioxx, le Vioxx, c'est un médicament. Non.
Être acheté,
ah, il était en ville.
Il n'avait pas l'autorisation à l'époque de remboursement.
Alors, dans les PHMEV, c'est intéressant, il y a les anticancéreux oraux, là. Hein, les médicaments utilisés dans le cancer qui sont en comprimé ou en gélule. Bon. Qui coûtent une blinde, hein, 2000 euros, et qui ne font pas mieux que les... Bon, alors, c'est vrai qu'ils permettent d'éviter aux patients d'aller à l'hôpital et subir des chimiothérapies. Bon. Mais le prix est quand même assez élevé. Hein. Bon. Et puis, il y a, par exemple, alors ça, c'est une perche pour moi, parce que c'est un domaine que j'ai creusé beaucoup, c'est les médicaments du traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde. C'était en 2016, 1,5 milliard déjà, hein, par an, ces médicaments-là. Alors, c'est vrai qu'ils sont utilisés dans d'autres indications de maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn, comme la spondylarthrite ankylosante, et puis des maladies cutanées, hein, le psoriasis, le rhumatisme psoriasique, etc. Mais on va dire que la polyarthrite rhumatoïde, c'est 40% à peu près de l'utilisation de ces biothérapies. Les premières étant les anti-TNF-alpha, hein, Remicad, Humira, qui a été longtemps le médicament le plus remboursé. Et il y en a cinq comme ça. Eh bien, il faut que je vous dise une chose, c'est que depuis plus de 20 ans, les rhumatologues... Alors voilà 1,5 milliard, parce que ces PHMEV, c'était pratiquement 6 milliards d'euros en 2016. 6 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que la somme de la rétrocession et de la liste en sus. C'est considérable. Hein. Et ce qui fait d'ailleurs que les médecins hospitaliers, s'ils ne prescrivent que peut-être 15%, les spécialistes on va dire, que 15% des médicaments en boîte, ce sont les généralistes qui prescrivent 85% des boîtes de médicaments hein, en France, eh bien les hospitaliers et les spécialistes hospitaliers sont responsables de plus de 40%, peut-être aujourd'hui 45% de la dépense. C'est considérable. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, et là, bon, j'ai beaucoup étudié ce sujet, les rhumatologues, je dis l'ensemble hein, des rhumatologues, à quelques rares exceptions près, parce qu'il y a une dérive collective de prescription, ont confisqué à leurs patients, depuis plus de 20 ans, la meilleure option thérapeutique dans le traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde, qui est une association au méthotrexate, qui est associée à ces biothérapies, plutôt que ces biothérapies, à deux vieux médicaments qui coûtent rien, 6 euros par mois. La différence de coût est de 14 000 à 24 000 euros par patient et par an par rapport à la triple association conventionnelle. Alors bon, je vous ai mis les liens sur... J'ai deux sites personnels, en plus du site sur médicalisation que j'administre pour le colloque de Bobigny, mais j'ai écrit 5 ou 6 articles sur les médicaments du traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde. Les médecins ne sont pas des pourris ou des escrocs, simplement ils se mentent à eux-mêmes, ils sont dans le déni, ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent à leurs patients, ils mentent à leurs collègues dans les congrès, et ils sont dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Vous savez, quand on touche 100 000 euros en avantages perçus, c'était le cas d'un des rhumatologues. J'ai analysé les contenus des 6 derniers congrès de la Société française de rhumatologie. alors que des publications depuis 2013, 2014, 2016 consacrent, y compris avec des études randomisées en double aveugle, hein, avec crossover, comparative, directe, frontale, entre la triple association conventionnelle et l'association méthotrexate de ces biothérapies, eh bien, consacre cette option comme la meilleure. Hein. Et, bon. Et donc, j'étais là dans un droit que j'ai appelé le droit des usagers de la collectivité nationale à l'accès à des médicaments abordables. Alors, je voudrais terminer. Voilà, bon, je vous ai montré là, l'augmentation des prix des PHMEV. Vous voyez, c'est les plus dynamiques, hein, ces médicaments, parce qu'en fait, ces médicaments, au départ, étaient à l'hôpital. Le Remicade, par exemple, lui, est resté d'ailleurs uniquement un médicament prescrit à l'hôpital. En revanche, les autres sont sortis sous forme de stylos ou de seringues pour des injections sous-cutanées. Donc le malade, comme pour l'insuline, peut gérer lui-même. Et c'est comme ça qu'il s'est sorti de l'hôpital. Ça reste sur la liste en sus. Alors vous avez ici, vous voyez, les augmentations de dépenses des PHMEV. Donc au-delà de la liste en sus, on en a déjà parlé, que ça a augmenté, et les médicaments, finalement, ce qu'on mesure dans le titre 2 des hôpitaux, c'est à la fois les médicaments de la liste en sus et ceux qui sont inclus dans les GHS, dont on n'a aucune trace, parce que les données n'ont pas été mises en open data. C'est l'ANSM qui garde ça dans ses coffres forts, il faut le dire, le dénoncer encore. C'est scandaleux, l'ANSM n'a fait aucun effort pour mettre en libre téléchargement ces données. Elle a des données, alors elle se couvre sur le secret commercial, industriel. Bon, c'est dingue. Et donc, ici, vous avez l'évolution de l'ONDAM sur la période 2014-2016 et celle des dépenses de médicaments prescrits à l'hôpital et délivrés en ville. Oui. Alors, sur la gauche, j'ai les nombres de boîtes à gauche, les bases de remboursement en montant, hein, et les montants remboursés. En sachant que ce que rembourse pas, je pense qu'il faut prendre la base remboursement, hein, pour les hôpitaux. Oui, oui, c'est sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville. Alors, pour terminer,
regardez.
Ah oui, de toute façon, tout est pris en charge à 100% à l'hôpital. Alors, bon, il y a dans l'article que j'ai écrit sur le site du Forum Indep, je décris un oncologue de la PHP qui instrumentalise sur un plateau télé sur YouTube, hein, c'est Fréquence Médicale, vous savez, avec un journaliste animateur qui est, alors, en sachant que Fréquence Médicale est perfusé par les firmes pharmaceutiques. Hein. Et donc, ce gars-là fait intervenir une de ses patientes pour dénoncer un grand scandale, selon ce qu'on entend, à savoir qu'elle a été très bonne répondeuse du traitement. Il s'agit, même si ce n'est pas dit, on devine, c'est le pembrolizumab, le Keytruda, dans un cancer de la vessie avancé. Et elle dénonce devant les caméras une situation où elle peut encore avoir le médicament, mais les nouveaux patients dans son hôpital, hein, qui est un des hôpitaux de la paix de Paris, n'y ont pas droit, alors que dans les autres pays, c'est possible, etc. Elle soutient ça et s'est présentée à Nicolas Revel, directeur général de la CNAM. Heureusement que ce directeur de la CNAM connaissait le sujet. Il a démenti. Catégoriquement, il a dit, mais attendez, non, je suis désolé, vous ne pouvez pas dire ça. Ce médicament, vous pourrez avoir facilement la vidéo, ce médicament, vous l'avez même à disposition dans votre hôpital, vous pouvez l'utiliser, simplement, il ne sera pas remboursé à l'euro ou à l'euro, il va falloir que vous financiez ce médicament pour ces patients sur les recettes de la T2A. Mais c'est ce que ferait normalement, la T2A au départ, elle a été conçue pour ça. Les hôpitaux devaient être capables. Alors, sinon, il n'y a plus du tout de fongibilité entre les budgets. C'est ridicule. Bon, qui se débrouille ? Ils ont suffisamment un volume de médicaments achetés, de rabais qu'ils obtiennent aux fournisseurs, etc., etc. Ils sont remboursés par l'assurance maladie. Bon, voilà. Mais c'était mensonger. Alors, le gars, plus de 300 000 euros de montant, d'avantages perçus, de rémunération et de montant de convention dans la base Transparence Santé. Allez voir, il y a eu deux, trois choses de bien faites. Olivier va parler des dispositifs médicaux, donc il va parler des implants, implants FALS. Et puis il y a les Pharma Papers. Allez voir, c'est pas mal. Hein. Oui, alors Pierre-Alain Jachier est polytechnicien. Il a réussi à mettre tout ça sur une plateforme et à faciliter les extractions dans la base Transparence Santé. Alors, je termine assez rapidement. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le droit des usagers à bénéficier d'actions dites de régulation. Ça s'appelle aussi gestion du risque à l'assurance maladie. Efficacement mise en œuvre par l'État et les services publics pour garantir le bon usage des médicaments. Les données relatives à l'utilisation des médicaments mises en open data depuis 2001. Il y en a pas mal. Hein. Il manque simplement les médicaments en intra-hospitalier inclus dans les GHS que la NSM ne veut pas nous donner. Eh bien, permettent d'analyser les choses et de voir que malheureusement, on ne peut pas dire qu'il y ait un impact des actions de régulation. Alors, c'est le cas des visites des délégués de l'assurance maladie, les DAM, la CNAM sur le médicament. Et là, je vais vous donner un témoignage personnel parce que j'ai eu beaucoup de chance sur ce sujet. J'ai animé j'ai conçu moi-même des campagnes de visites médicalisées de DAM expérimentales qui n'ont pas été généralisées parce que ça gênait beaucoup. Et les entretiens confraternels avec les praticiens conseils, c'est pareil, ça ne donne pas de résultats. Les CAPI, puis les ROSP, on parlait des ROSP tout à l'heure, ne donnent pas de résultats. C'est la CNAM aussi qui gère ça. Les points d'information, rapport de la NSM, n'ont pas d'impact sur la prescription. Les avis de la commission de la transparence, les recommandations HAS, pas plus. Les mesures administratives telles que l'obligation d'accord préalable à l'instauration de la rosuvastatine. Alors, très vite, hein, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Là, c'est l'impact qu'on a eu sur une campagne de visite médicalisée des DAM en région Languedoc-Roussillon sur le bon usage des antibiotiques. On a fait remonter, avec 4 visites à peu près, de près de 60% la part de l'amoxicilline seule dans un panier de 19 antibiotiques. Ça, à droite, c'est les médecins visités par les DAM que j'ai formés. À gauche, c'est les médecins non visités, 6640. J'avais accès aux prescriptions individuelles de chaque médecin, plus de 7000 médecins de la région Languedoc-Roussillon. On avait fait encore mieux un an auparavant. À l'insu du plein gré de la CNAM, j'avais accompagné la caisse de l'Aude, qui est un département rural. On avait augmenté de 77% la part de l'amoxicilline en patientèle, la faisant passer de 19,9, enfin, moins de 20% à 35% en l'espace de moins de 6 mois. Donc ça marche. Ça marche à condition de respecter un cahier des charges très exigeant. C'est-à-dire qu'il faut un contenu de visite de qualité qui intéresse les médecins, pas leur rabâcher des choses qu'ils connaissent déjà. Il faut les visiter de façon itérative. Toute chose que ne fait pas la CNAM. Et j'avais à l'occasion des assises du médicament également été auditionné sur ce point par Alain-Michel Serretti et je lui avais donné mon expérience et un des messages que j'avais donné c'était de rendre opérante la visite médicalisée des délégués de l'assurance maladie. J'ai été à deux doigts en 2006 de travailler pour 17 caisses. Certaines m'avaient même retenu sur une consultation publique et puis il y a eu un veto, un mail qui est parti de tout en haut du bras droit de Frédéric Van Ruckeghem, me désignant nommément et disant « Vous avez reçu des offres de service d'un consultant, M. François Pesty, nous vous demandons de ne pas y donner suite favorable. » Bon, ça ne m'a pas empêché de faire une ou deux, mais un peu en cachette, campagne. Une, il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai fait 3 ou 4 sur les statines, 2 sur les antibiotiques et 2 sur les antihypertenseurs du système rénine-angiotensine. Alors, système Là, c'est pour vous montrer l'absence d'impact. J'ai fait ça pour la revue Prescrire il n'y a pas longtemps. L'absence d'impact sur les prescriptions de rosuvastatine de l'obligation d'accord préalable avec les médecins conseils. C'est une opération qui a mobilisé un nombre énorme de médecins et de pharmaciens conseils, j'imagine, et qui n'a eu aucun résultat, puisque en fait la rosuvastatine déclinait 11 mois avant la mise en œuvre de la mesure, et puis cette mesure a été arrêtée là récemment. Non, ça c'est la flèche, c'est les premiers médicaments, les premiers génériques du Crestor. Pour vous dire que même une intervention aussi bête comme chou, hein, on demande. Alors ils avaient un logigramme de prescription qui était une usine à gaz, incompréhensible. Enfin bon, ça n'a donné aucun résultat. Je voulais.
Est-ce que tu peux résumer ce que ça met en évidence globalement? Un défaut, une carence de formation continue des médecins, des orientations de la HAS qui ne sont pas suffisamment claires.
Alors, les, non, non.
Qu'est-ce qui découle de tout ça?
Alors, si. Très bonne question. Alors, simplement, à mon avis, dans mon expérience, il y a deux modes principaux pour impacter fortement sur la prescription des médecins. Le premier mode, c'est ce qu'emploie l'industrie pharmaceutique. Mais nous, on a été plus loin puisqu'on avait les données de prescription individuelle des médecins. On leur faisait des profils de prescription individuelle et des analyses graphiques de l'évolution de leur prescription. Ce que leurs logiciels ne permettent pas de faire. C'est-à-dire qu'aucun logiciel en ville ne permet, en quelques clics, de composer un panier de médicaments pour une indication précise et de renvoyer au médecin, à l'échelle de sa patientèle entière, comment a évolué sur 2 ans, 3 ans, sa pratique. Donc, ils étaient une des recettes de l'efficacité des visites que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Eh bien, ça a été les outils de restitution de pratique qu'on a pu mettre en place. Tout simplement, la visite médicale déjà est efficace. Et c'est une visite itérative qui amène du contenu intéressant pour les médecins, qui les divertit un petit peu. Et le fait. Ce qu'on a fait avec ces quelques caisses, c'est ni plus ni moins que ce qu'on attendrait du développement professionnel continu, c'est-à-dire à la fois une partie formation continue, où on amène des éléments de connaissances scientifiques, médicales, et puis aussi une partie évaluation des pratiques professionnelles. Hein. Et voilà, et ça marche, mais il n'y a pas de volonté politique, parce que qu'est-ce qui se passe ? Les arbitrages se font tout en haut. C'est pas impossible d'ailleurs que ce soit Nicolas Revel qui ait demandé stop parce qu'il a été. Mais c'était avant, c'était sous Chirac en 2006. Bon, toujours est-il qu'il n'y a pas de volonté politique. Et ça, c'est un gros problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a. Oui, 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 oui. Je termine. Là, c'est un point presse qui disait en gros. L'ANSM disait qu'il ne faut plus utiliser les ARTANs parce qu'il y a deux méta-analyses qui montrent qu'ils ne sauvent pas de vie. Ils font baisser la tension artérielle, mais quand on regarde les méta-analyses, il n'y a pas de baisse de la mortalité toute cause, de la mortalité cardiovasculaire, etc. Alors, je vais terminer et je vais simplement balayer, vous aurez les diapos et vous pourrez regarder dans le détail, le soutien que je fais à une proposition de réforme en profondeur du système pharmaceutique, qui a été publié dans le BMJ en mai 2018 par un Américain, Adam Gaffney, et un Canadien, Joël Lexin. Et le titre, c'était « Notre système pharmaceutique est cassé et seule une réforme d'ampleur peut garantir un accès universel à des médicaments plus sûrs, plus innovants et mieux abordables. » Alors, il y a 6 principes fondamentaux. Ce ne sont pas les ressources financières, mais le besoin médical qui doit guider l'accès aux médicaments. Le prix des médicaments doit être abordable pour la société. Le développement des nouveaux médicaments doit être orienté vers des réels progrès pour améliorer la santé de la population. Le droit de l'homme à la santé, vous voyez, je suis bien au bon endroit pour en parler, doit primer sur celui de la propriété industrielle. Et là, c'est les brevets et c'est ce dont vous parlera peut-être aussi Olivier. La sécurité et l'efficacité des médicaments doivent être évaluées de manière indépendante et rigoureuse. Une information compréhensible non biaisée sur les médicaments doit être à disposition des médecins et des patients. Cet axe, je vais juste les défiler. L'accès aux médicaments de prescription, donc il y a des mesures concrètes qui sont proposées. les prix des médicaments, le développement préclinique des médicaments, les essais cliniques, l'autorisation de mise sur le marché, le suivi post-marketing et enfin la promotion. Voilà sept axes sur lesquels il y a des mesures concrètes et malheureusement, il y a de grandes réticences au niveau des politiques qui préfèrent favoriser l'économique et pour lesquelles, finalement, la santé des Françaises et des Français, ce n'est pas le cadet de leurs soucis, mais ça passe en plan, en arrière-plan par rapport à l'économie. Voilà. Merci. Et c'est vrai que j'étais sans doute très long.
Oui, ça permet quand même de faire de la fin, un bon enchaînement avec ce que tu as sans doute nous brosser par rapport comment on peut avancer dans un contexte aussi problématique. Quoi, parce que oui, une fois qu'on a fait appel à. Enfin, qu'on s'est rendu compte avec le monde, c'était sur la fameuse affaire de l'antirétroviroïde en direct, les effets exorbitants fixés sur le monde nouvelle. Comment tu peux nous exposer où on en est maintenant tout ça?
Alors, c'est un peu compliqué, donc comme d'habitude, c'est très très riche et très intéressant. Okay. Pour remettre peut-être ça un peu en perspective sur ce que ça fait initialement.